Peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu cette phrase. Mais comment peut-on penser ainsi en 2023 ? Ce processus, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, le décrypte dans son dernier livre, La dictature des ressentis. L'ayant elle-même vécu dans ses années à Sciences Po, et encore aujourd'hui avec ses détracteurs, elle propose quelques clés pour déconstruire la déconstruction. Bonjour Eugénie Bastier, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Je pense qu'ici, beaucoup d'abonnés vous connaissent pour vos activités, notamment de journaliste au Figaro. Et ça fait un bout de temps que dans la droite, votre nom s'entend. Mais comme c'est la première fois que vous venez sur VA+, je vous propose une petite présentation. Donc est-ce que vous pouvez nous revenir sur votre parcours, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites maintenant aujourd'hui, qu'on en sache un peu plus sur le personnage ?
Bah, ça fait presque 10 ans que je suis journaliste, presque 10 ans que je suis au Figaro, même si j'ai commencé par faire un stage au magazine Causeur, sous la houlette d'Elisabeth Lévy, celle qui m'a un peu lancée en journalisme. Et depuis presque 10 ans, donc, je suis journaliste au Figaro, dans les pages débat et opinion. Je tiens une chronique tous les jeudis où je critique un livre en donnant mon regard sur un essai. Je suis dans le domaine de la vie des idées. J'aime bien suivre ce qui se passe dans cette guerre intellectuelle qui sévit en France. Par ailleurs, je suis aussi, on peut me voir sur CNews et m'entendre sur Europe 1. Je me définirais comme une journaliste, une journaliste en immersion dans le monde intellectuel.
Vous avez toujours voulu faire ça, du journalisme, peut-être écrire des livres ?
Ouais, j'ai toujours voulu écrire, ça c'est certain. J'étais à Sciences Po, j'ai pas mal hésité entre la politique et la philosophie. Je faisais d'ailleurs Sciences Po et une fac de philo. J'avais envie de faire de la politique pour changer les choses, par désir d'action, de changement. J'aimais beaucoup la philo par ailleurs, pour la quête de la vérité qu'il y avait en philosophie. Et je trouve que, en fait, ce qui me dérangeait en politique, c'est qu'on avait, on avait du pouvoir, mais on abandonnait la quête de la vérité. Et en philosophie, on avait la quête de la vérité, mais on n'avait pas de pouvoir. Et je trouve que le journalisme est un peu un moyen terme entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir le goût de la vérité et en même temps influencer les choses et avoir une sorte de pouvoir, parce que le journalisme est un pouvoir. Et donc c'est cet équilibre entre pouvoir et vérité qui m'intéresse dans le journalisme.
On vous définit dans les articles qu'on peut voir sur vous, personne ne sait trop dire comment vous définir. On entend conservatrice, anti-féministe avec vos précédents livres, réac pour les moins sympas. Comment vous définiriez-vous si vous deviez imposer un mot sur
moi, je me définirais comme conservatrice. Pour moi, c'est pas du tout un adjectif qui est péjoratif. C'est une belle tradition philosophique qui en France est peu assumée, même si nous avons toute une tradition conservatrice, notamment au XIXe siècle, ce qui va de Chateaubriand jusqu'à Pierre Manent aujourd'hui. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on n'investisse pas ce mot de conservateur. Je le préfère à celui de réactionnaire, non pas parce que je trouve que réactionnaire c'est péjoratif, je pourrais m'accommoder aussi de ce stigmate, mais je ne suis pas réactionnaire dans le sens où je ne pense pas, je suis trop réaliste politiquement et trop prudente pour penser qu'on puisse carrément faire la révolution inverse et revenir en arrière remettre le roi sur le trône. C'est pour ça que je ne me définirais pas comme réac, même si pour moi c'est pas infamant comme terme. Je préfère celui de conservatrice, il correspond mieux à mes idées et à mon tempérament, parce que je pense que j'ai un tempérament conservateur, dans le sens où je pense que la prudence est une vertu politique. Et j'ai en aversion, en fait, la révolution. Et je crois que c'est ça qui caractérise le conservatisme. Ouais. C'est l'idée de la table rase, de la révolution, de la remise à zéro des compteurs est fondamentalement dangereuse politiquement.
Vous venez de sortir votre cinquième livre, si je ne me trompe pas.
Plus ou moins, oui.
Oui. Donc, La dictature des ressentis, qui vient tout juste de sortir. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition d'une dictature des ressentis ?
Alors, la dictature des ressentis, c'est un mot que j'avais employé dans une de mes chroniques pour parler du wokisme, entre autres. Mais je pense que ça peut s'étendre au-delà du wokisme. Cette idée, c'est à la fois un mélange de relativisme et d'intolérance qui caractérise notre débat public. Relativisme, parce qu'en fait, en réalité, personne ne croit à la vérité, à l'unicité de la vérité ou à l'unicité du bien, c'est-à-dire que chacun... Enfin, la morale ambiante, c'est en gros, il n'y a pas de morale, chacun fait ce qu'il veut, et chacun a son opinion et son ressenti, c'est moi, je pense que... Et en même temps, dictature, parce qu'on estime que ce ressenti, cette opinion, ne saurait être remise en cause par autrui, ne saurait être discutée, et qu'on ne supporte pas d'entendre dans l'espace public des opinions... qui ne sont pas les siennes, des opinions qu'on juge immédiatement blessantes, dérangeantes, et on assimile des opinions à des offenses. Et je crois que c'est cette dictature des ressentis, ce mélange de relativisme et d'intolérance qui rend extrêmement difficile le débat aujourd'hui. Chacun finalement vit dans son ressenti, compatit de façon automatique et identitaire aux gens qui sont dans sa bulle. Et surtout, ça caractérise aussi une génération, une jeune génération qui ne veut plus être bousculée, être dérangée, être gênée, être offensée. Et moi, je crois que le débat, c'est justement ne pas avoir peur de prendre des coups, même d'entendre des choses qui nous déplaisent. Et moi, je quand j'allume ma radio, souvent, j'entends des opinions qui ne sont pas les miennes, mais je les écoute, je ne veux pas les faire taire. Et je crois que c'est important de se confronter à des opinions qui sont différentes des siennes.
Est-ce que le mot dictature implique aussi quelque chose d'un peu institutionnalisé, de structuré, comme s'il y avait un espèce de mouvement avec des têtes et tout un organisme qui se déploie pour faire vivre cette dictature?
Alors, c'est
ressentis.
Difficile à dire parce qu'en fait, je pense que aussi ça vient beaucoup du bas, c'est notamment via les réseaux sociaux, c'est une espèce de censure. Chacun devient un petit censeur en réalité d'autrui. On dénonce, on lance la meute, on harcèle. C'est pas... Et en fait, je pense que la France, sur la liberté d'expression, la France conjugue deux problèmes. Quel problème qui, à la fois, en France, on a fait le choix de limiter la liberté d'expression par l'État, par le haut, par la loi. On a des lois très, très restrictives en matière de liberté d'expression. Donc c'est un choix institutionnel. Et en même temps, alors que aux États-Unis, pas du tout, vous avez la Constitution américaine garantit la liberté d'expression, donc vous pouvez avoir des nazis qui se baladent dans la rue. Mais en même temps, aux États-Unis est né ce mouvement woke, justement parce que l'État ne chapeautant pas la liberté d'expression, la censure est venue du bas des campus américains, des étudiants qui créent des safe spaces, etc. Et nous, je pense qu'on conjugue les deux. On a à la fois une liberté d'expression cornaquée, censurée par la loi, et en même temps, cette poussée woke qui vient du bas, des réseaux sociaux, des campus. Et c'est pour ça qu'il est... je ne dis pas qu'on ne peut plus rien dire, parce qu'il y a énormément d'opinions dans le débat public, mais disons, les opinions se confrontent moins les unes aux autres.
Et d'autant que dans votre livre, vous insistez sur la spécificité française.
Oui.
L'espèce de culot français où on ne fait pas taire un Français aussi facilement,
oui.
Ce qui peut être différent dans d'autres pays.
Je pense que ce qui caractérise la France est le fait qu'elle résiste un petit peu au wokisme. Je dis bien un petit peu parce qu'il est quand même assez puissant, notamment à l'université et dans la culture. Je pense qu'on a un mélange de vieux fonds catholiques, d'esprit des Lumières, une pointe d'ironie voltairienne, de panache, qui fait que on est moins fragile, peut-être moins puritain que la mentalité anglo-saxonne. On a aussi l'alliance en fait du catholicisme et de la République qui fait qu'on a un espèce de vieux fond commun, qui fait que la mentalité de tribu a moins de prise sur notre psyché collective. Même si évidemment tout ça tend à se détériorer, et c'est bien ce que je décris dans mon livre. Donc je pense qu'on a les ressources, en tout cas dans notre civilisation, dans notre imaginaire français, pour résister à ça. Encore faut-il s'en saisir.
Vous proposez dans votre livre trois axes. Je vais les citer. D'abord, déconstruire la déconstruction, tout simplement. Mmh. Ensuite, admirer et sauver ce qui peut encore l'être. Et enfin, puiser dans le passé des ressources pour l'avenir. Qu'est-ce que vous entendez d'abord par déconstruire la déconstruction? Comment est-ce qu'on fait?
Je crois que c'est important d'avoir de l'esprit critique envers l'esprit critique qu'on nous propose, en fait. C'est-à-dire qu'on nous propose, en fait, beaucoup de choses qui paraissent, par exemple, pour des évidences absolues qu'on ne peut jamais remettre en question, du genre « le féminisme, c'est formidable », « comment ne pas être féministe ». Ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, donc c'est un sujet que j'essaie énormément de déconstruire, parce qu'effectivement, il y a une telle propagande depuis des années, à tous les niveaux, qui nous martèle matin, midi et soir, le catéchisme féministe, qu'on a presque oublié voilà, de quels étaient ses tenants et ses aboutissants. Et je pense que c'est important de déconstruire ce discours, montrer où sont ses erreurs, où sont ses dérives, pour essayer de le combattre. Il faut combattre avec intelligence les adversaires. Et donc, c'est ce que je propose, de décortiquer, ou par exemple, le décolonialisme. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, par exemple, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a autant de mal à prononcer le mot terrorisme pour qualifier le Hamas, si on ne sait pas que derrière, il y a cette espèce d'idée du décolonialisme qui justifie le terrorisme, en réalité, parce que tous les penseurs décoloniaux ont justifié la terreur au nom de la décolonisation. Et comme Israël est considéré comme un État colonial, le colonialisme étant le pire des crimes dans la mentalité des décoloniaux, la terreur peut être justifiée. C'est tout le débat qui a opposé Sartre à Albert Camus dans les années 60, au moment de la guerre d'Algérie. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas non plus aussi ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de bien comprendre ces traditions philosophiques qui nous sont présentées comme aujourd'hui une sorte de catéchisme.
Donc il faut déconstruire et aussi essayer de reconstruire potentiellement ce qui a été détruit.
Oui.
Oui.
Non, mais je pense que c'est important de... Je veux pas être dans la déploration et dans la critique systématique, même si c'est important, il faut avoir l'esprit critique. Et je veux aussi, parce que justement c'est ce que je reproche au woke, de vouloir... de déconstruire en fait, et je trouve que c'est beaucoup plus facile de détruire que de créer, de critiquer que d'admirer, et c'est pour ça que j'essaie aussi de dire voilà, trouvons aussi des choses à admirer, à protéger, ayons des discours, je sais pas, qui sont gnangnang, il faut être positif, il faut positiver, on peut pas être que juste dans l'attaque, il faut aussi montrer ce qui vaut la peine d'être défendu. Il faut aussi s'emparer de sujets, ne pas les abandonner à ces gens-là, notamment le féminisme, l'écologie, et donner des figures à admirer.
Justement, pour admirer et sauver, vous rendez hommage à plusieurs écrivains, essayistes, philosophes, dont la plupart sont d'anciennes personnalités de gauche, enfin, ou alors se disent encore personnalités de gauche, mais sont tellement traités de fachos maintenant par la gauche qu'on ne sait plus trop, enfin même eux ne savent plus trop quoi penser. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ça prouve qu'être à droite, c'est là où se trouve la réflexion, la vraie, le débat? Ou inversement, juste quand on est un intellectuel, même de gauche aujourd'hui, on est catégorisé de droite, quoi qu'on veuille?
Je ne dirais pas que la droite a le monopole de l'intelligence, parce que ce serait reproduire l'erreur de la gauche, l'erreur qu'a fait la gauche pendant longtemps. Moi, si je suis de droite, justement, c'est que je récuse, c'est vraiment parce que je récuse de toutes mes forces le sectarisme de la gauche. Si la droite doit devenir sectaire, je n'ai plus envie d'être de droite, parce que c'est ça qui me rend de droite, hein, parce que je ne supporte pas l'idéologie, l'aspect... la mentalité carcérale, comme disait Saint-Exupéry, de la gauche qui veut enfermer dans des étiquettes, qui veut avoir le monopole du bien, qui rejette comme ça, qui met des étiquettes. Donc je crois que c'est très important ça à dire, parce que souvent d'ailleurs je vois des gens de droite qui sont tentés de s'approprier les méthodes de la gauche, parce que maintenant voilà, ils sont en train de gagner la bataille des idées et que c'est comme ça qu'on va gagner. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Bref, et donc oui, ces personnalités, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène... dans l'intelligence française, beaucoup de gens qui se trouvaient à gauche il y a dans les années 70-80 se retrouvent aujourd'hui étiquetés de droite. Alors ça s'explique aussi par le fait que nous sommes dans la vie des idées est sinistrogyre, c'est-à-dire qu'en réalité toutes les nouvelles idées naissent à gauche, notamment le wokisme, par exemple la théorie du genre, le racialisme, ces idées qui naissent à l'extrême gauche et qui du coup déportent l'ensemble des idées et des discussions vers la droite en réalité, parce que quand vous avez un flux continu qui naît à gauche, et bien forcément tout le monde est déporté vers la droite. Donc quand vous vous retrouviez là dans les années 70, vous vous retrouvez là aujourd'hui. Mais je crois aussi qu'il y a eu des gens qui ont encore le sentiment sincère d'appartenir à la gauche parce qu'ils ont parce que tout simplement ils se reconnaissent dans cette tradition et puisqu'ils sont pour la justice, l'égalité, etc. et qui se sont retrouvés exclus de leur propre camp par un phénomène de pureté idéologique qui, à mon avis, est propre à la gauche qui en fait la droite comment dire. La droite fait de l'entrisme idéologique, elle récupère les références de ses adversaires, alors que la gauche, elle, pratique la pureté idéologique et a une mentalité de forteresse assiégée, ce qui ce qui est possible quand on domine le débat d'idées, mais qui devient problématique quand on est minoritaire, et c'est le cas aujourd'hui.
Vous aviez dit dans une interview à l'Incorrect, dans un Fast and Curious avec l'Incorrect, que ce qui vous a cassé le plus dans la droite, c'était son refus de réfléchir. Qu'est-ce que vous entendiez par, par ça?
C'est vrai que...
Justement, on vient de dire que finalement, la réflexion se portait quand même à droite, quoi.
Mais vous voyez, les penseurs qu'aujourd'hui on qualifie de conservateurs, beaucoup viennent de la gauche, justement, c'est intéressant. Oui. Et, mais bon, il y a des gens comme Pierre Manon, Chantal Delsol, Rémi Braque, qui sont plutôt conservateurs à droite, qui sont d'immenses penseurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a un refus de réfléchir à droite, parce que la gauche se meut dans l'abstraction, puisqu'elle veut l'utopie, elle veut changer le monde, donc elle est plutôt dans les idées, puisqu'elle n'est pas dans elle considère que le monde actuel n'est pas bien, et qu'il faut lui opposer un monde idéal, donc une utopie, donc des abstractions. Et donc la gauche est plus à l'aise dans le domaine des idées et dans le domaine des abstractions, et donc elle réfléchit plus puisqu'elle imagine un autre monde que celui qui existe. Alors que la droite souvent se satisfait du monde qui existe et ne cherche pas forcément à réfléchir à ses tenants, à ses aboutissants et à le changer. D'ailleurs, c'est pour ça que on dit souvent que la droite est plus littéraire et la gauche est plus intello, philosophique, parce que voilà, la gauche, c'est les idées, les abstractions, et la droite, c'est plus...
C'est peut-être un peu de l'autopréservation aussi. On a tellement attaqué qu'on se dit...
Bien sûr, il y a aussi...
On n'a pas le temps, on fera ça après quand on...
Notamment, il y a eu aussi une OPA de la gauche sur le domaine des idées, ça c'est certain, depuis l'après-guerre, parce que, disons que la grande... Le moment où la droite a énormément réfléchi, c'était l'entre-deux-guerres avec Charles Maurras, l'Action française. Là, il y avait une théorie extrêmement... un système, en fait. Un système de droite. Ah oui. Et ce système ayant été dévalorisé et même entaché par la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy, on a considéré que toutes les idées de droite étaient nauséabondes et qu'il fallait, en fait, ne plus penser. Et donc, il y a eu une espèce d'OPA de la gauche après la Seconde Guerre mondiale qui a duré très, très longtemps. Ensuite, vous avez eu dans les années 90 le retour du libéralisme à la faveur de la chute de l'URSS, avec des penseurs libéraux, François Furet, Pierre Manon, mais de gauche aussi, comme Rosan Vallon. Enfin, vous avez toute une école libérale dans les années 90. Là, le libéralisme est un peu tombé en désuétude. Et c'est vrai que parfois, je reproche à la droite d'être trop dans la réaction à la bêtise idéologique de la gauche et pas en essayant de réfléchir et de fonder un véritable corpus théorique, notamment sur des thèmes comme l'écologie ou le féminisme, où on est sans cesse dans l'anti-féminisme ou dans l'anti-écologie et pas en essayant de proposer une écologie de droite ou un féminisme de droite qui aurait sa propre consistance, sa propre autonomie.
Et quand vous dites puiser, donc la troisième partie de votre livre, puiser dans le passé les ressources pour l'avenir, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qu'il y a à puiser pour vous dans le passé?
Je crois que...
Parce que c'est souvent mal vu de puiser dans le passé. C'est...
Je crois que les grands auteurs du passé sont là, effectivement, pour nous éclairer. On a à disposition toute une sédimentation de réflexions, d'auteurs qui ont vécu, en fait, les problèmes universels de l'humanité, qui ont réfléchi et les balayer d'un trait de plume en disant qu'on est plus malin qu'eux, c'est la chose la plus stupide à faire. Et je ne sais pas, par exemple... Sur la question du terrorisme, si on écoute Albert Camus, on trouve des textes absolument magnifiques et très intéressants sur pendant la guerre d'Algérie. Enfin, on peut puiser comme ça, ou Charles Péguy sur l'esprit de parti, l'esprit de le fait que quand la mystique dégénère en politique, c'est des choses qui peuvent nous parler aujourd'hui, évidemment. Et je crois que Bernanos, sur l'idée de réfléchir même au-delà de son camp, de prendre même parti parfois contre son camp idéologique, c'est des choses qui peuvent nous éclairer aujourd'hui et nous aider à être plus intelligents. Et puis il y a aussi un exercice d'admiration qui est gratuit, qui ne sert pas forcément à nous aider dans tel ou tel combat, mais qui est juste une admiration gratuite pour la beauté de textes ou de personnages qui nous marquent. Et je crois que c'est aussi important parfois d'avoir une admiration gratuite pour des personnes ou pour des textes.
On parle beaucoup et vous parlez beaucoup dans votre livre de personnalités passées et présentes qui pourraient nous inspirer. Et vous, quelle est la figure qui vous inspire, s'il devait y en avoir une?
Je réfléchis.
Parce qu'évidemment, c'est un corpus, c'est beaucoup de petites choses à droite à gauche, mais est-ce qu'il y a une personnalité, une vie ou un...
Il y a une vie qui m'inspire, mais je m'en sens pas du tout à la hauteur, évidemment, mais c'est la vie de Simone Veil, la philosophe Simone Veil. Je lui ai consacré une série cet été dans le Figaro. Et c'est une vie qui m'inspire et qui m'effraie à la fois, parce qu'elle avait un caractère, une espèce de cohérence absolue entre sa parole et ses actes, dont je ne suis pas sûre que nous soyons tous capables. Mais elle a eu une, voilà, ce qui m'inspire chez elle, c'est son goût presque terrifiant pour la vérité, à qui elle était prête à sacrifier beaucoup de choses. Et c'est ce genre de personnalité qui, effectivement, reste un peu comme un visage au-dessus de son épaule quand on écrit, qui intimide parfois, et on se dit, qui nous dit, bon, est-ce que je suis à la hauteur ? Évidemment, on ne l'est pas, parce que c'est une personnalité qui est incomparable, mais c'est bien, je pense, d'avoir comme ça des modèles qui nous guident, en tout cas, vers lesquels on essaie de s'inspirer.
Pour en revenir donc encore aux trois axes que vous présentez dans votre livre, est-ce que ce triptyque serait la solution miracle à tous nos maux ? Est-ce que ce serait une sorte de guide anti-effondrement de notre pays ?
Déconstruire les déconstructeurs, sauver ce qui peut l'être et admirer dans le passé, je pense que c'est un beau programme, en effet. Alors c'est peut-être un peu vague, il faudrait l'étoffer. Mais effectivement, sans doute. Après, je ne prétends pas avoir la solution à tous les maux qui menacent notre pays. Je pense que, d'ailleurs, ce serait... Enfin, j'ai pas du tout l'esprit de système, je pense pas qu'il y ait une clé qui ouvre toutes les portes. Et je crois justement ce qui est important dans le travail intellectuel, dans la recherche de la vérité, c'est d'essayer de ne pas résoudre tout à une cause unique ou à une solution unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul problème sur lequel il faut se focaliser uniquement. Je crois qu'il y a une pluralité du facteur humain qui fait que, enfin, je crois beaucoup au pluralisme, en fait. L'humanité est complexe, et je crois que, il faut garder ce souci, en fait, de la complexité du réel, et ne pas vouloir avoir une clé de lecture qui ouvrirait toutes les portes.
C'est pour ça qu'après avoir écrit beaucoup sur le féminisme, vous avez ouvert les portes avec cette dictature.
Exactement. Moi, la question du féminisme me passionne, mais je ne voulais surtout pas devenir une militante anti-féministe comme il y a des militantes féministes. Parce que, justement, ce que je leur reproche, c'est de s'enfermer, justement, dans cette espèce de rente du féminisme et de se définir par rapport à cette question comme des militantes. En fait, je n'ai pas l'esprit militant à ce point-là. Je sais bien qu'il existe des militants, hein, je trouve ça, mais ce n'est pas mon état d'esprit. Et donc, je ne voulais pas m'enfermer dans une espèce d'anti-féminisme, même si je trouve que c'est une question extraordinairement, d'ailleurs, complexe et profonde, puisque le féminisme, ce n'est pas juste la question du féminisme, c'est la question de la condition humaine même, puisque c'est une condition humaine qui est sexuée, et ça renvoie à énormément de choses. Mais je pense qu'il y a plein d'autres questions. Et j'essaie toujours, moi, dans mon travail, notamment au Figaro, et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir cette chronique livre, parce que ça me permet de lire, en fait, des tas d'essais différents et de m'intéresser en fait à plein de domaines qui sont pas, enfin, de ne pas m'enfermer dans un champ intellectuel réduit et d'essayer de d'ouvrir le panorama au maximum.
Vous blâmez souvent, comme beaucoup peuvent le faire, les réseaux sociaux pour leur instantanéité, source de conflits, parfois de censure. Quelle est votre utilisation personnelle des réseaux sociaux ? Quelle est la distance que vous prenez avec ces outils ? Est-ce que vous avez été vous-même victime de censure ou peut-être de raid, comme on parle maintenant de raid de agressif contre vos idées ?
Oui, moi je critique les réseaux sociaux, leurs défauts, parce que ils en ont évidemment. Après, ils apportent aussi énormément de choses. Moi-même, j'ai un rapport effectivement peut-être addictif à Twitter, qui a pu me coûter cher.
Vous avez commencé dès vos débuts, vous êtes fait presque repérer un peu grâce à vos tweets.
Oui. Twitter, c'est vrai que je trouve que c'est un outil assez formidable pour s'informer, j'en vois pas d'autres en fait en termes de complexité de largeur pour l'information. J'ai eu des petits soucis sur Twitter parce que effectivement j'ai fait preuve d'ironie dans des circonstances tragiques, ce qui m'a valu effectivement c'était mal compris, c'était d'ailleurs ma faute, mais j'ai eu aussi des raids effectivement d'un harcèlement et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez monstrueux sur les réseaux sociaux. Qui est la capacité à pouvoir être tout de suite atteint en fait personnellement, c'est-à-dire que avant quand vous étiez journaliste il fallait écrire la lettre, coller le timbre, l'amener à la poste pour insulter un journaliste. Bon, on pourrait s'obliger peut-être une dizaine de lettres, mais quand ça fait maintenant avec les réseaux sociaux, vous pouvez être insulté en permanence, vous êtes à la portée de l'injure en permanence. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus dire des choses, et ça, c'est un truc qui m'avait frappé. J'en avais parlé avec Régis Debré et il me disait, moi, il y a des sujets sur lesquels je ne veux plus m'exprimer parce que je sais que si je dis quelque chose qui va à contre-courant de l'opinion présente, on pourra le découper, le mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, finalement, il y a beaucoup d'autocensure, ouais, je pense.
Vous autocensurez un petit peu
Tout ce que je dis, je le pense. Je ne dis pas tout ce que je pense.
Ok, bonne réponse. On oppose souvent conservateur et progressiste.
Ouais.
Quelle est votre vision du progrès? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais progrès? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais conservatisme?
Moi, je m'oppose au progrès avec un P majuscule, c'est-à-dire l'idée que... C'est-à-dire le progressisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une lecture linéaire de l'histoire de l'humanité et finalement, on irait... du Moyen-Âge jusqu'aux Lumières, jusqu'à nos démocraties modernes, on irait vers davantage de... L'humanité ne cesserait de s'améliorer par la conquête de nouveaux droits, de façon inexorable. Non, je pense que chaque époque a ses turpitudes. On a un droit d'inventaire à chaque époque des progrès et des reculs qui ont été faits. Et je ne crois pas à cette espèce de marche en avant de l'histoire qu'on veut nous vendre, notamment dans la conquête des droits individuels, en disant de toute façon, ça sert à rien d'être contre l'euthanasie, ça sert à rien d'être contre la GPA, parce que ça arrivera, c'est la marche de l'histoire. Non, je pense que chaque progrès qui nous est présenté comme un progrès doit être pesé au trébuchet, et on doit délibérer ou pas si c'est véritablement un progrès. Donc non, je ne suis pas progressiste dans ce sens-là. Est-ce que j'aurais toujours été conservatrice? C'est une bonne question. Est-ce que j'aurais été conservatrice à d'autres époques qui exigeaient du moins. Est-ce que j'aurais été 68ard dans mes 68 ou gaulliste? C'est difficile à dire. Je pense que j'ai une mentalité. Je pense aussi que, quand même, in fine, la différence entre progressiste et conservateur est aussi une différence de tempérament et une différence de vision du monde. C'est-à-dire, c'est l'idée que soit on considère que la nature humaine est mauvaise, enfin mauvaise, en tout cas entachée de ce que les catholiques ont appelé le péché originel, c'est-à-dire que l'homme est naturellement mauvais et que c'est la société qui le rend meilleur, soit on considère comme les progressistes que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le pervertit et que donc il faut déconstruire cette société pour retrouver cet homme originel qui serait bon. Moi, je suis plutôt conservatrice dans le sens où je pense que effectivement, c'est la société qui rend l'homme meilleur et les solutions trouvées par le passé, par nos ancêtres, n'étaient peut-être pas idéales, mais quand ces solutions ont traversé le temps, que ce soit le mariage ou la monarchie, c'est qu'elles ont été à un moment bonnes et qu'elles ont eu un sens et qu'elles ont prouvé une efficacité. Mmh. Alors après, on a pu les remettre en question en disant la monarchie n'a plus lieu d'être ou le mariage n'a plus lieu d'être. Mais ne soyons pas trop orgueilleux et souvenons-nous pourquoi ces solutions ont été inventées, pourquoi elles ont traversé le temps et pourquoi elles ont, à l'époque, été considérées comme des bonnes choses. Ce n'était pas pour rien.
Donc, parce que souvent, on a un public très jeune et quand on est jeune et qu'on se dit conservateur, dans les yeux des autres, t'as envie de stagner, en fait. Tu veux pas avancer, tu veux rester sur... T'as pas de vision de l'avenir, t'as pas d'idéal, t'as rien. Et souvent, c'est pour ça que ça s'oppose à chaque fois. Mais est-ce que c'est possible de conjuguer les deux?
Moi, je crois que c'est le progressisme qui est ringard. Parce que le slogan « En marche », le slogan « En avant », le changement, c'est maintenant », c'est des slogans qui sont aujourd'hui dépassés. Parce qu'à l'heure où, effectivement... même la planète est en train d'atteindre les ressources, la fin des ressources planétaires, où le changement climatique est une donnée qui bouleverse nos existences, à l'heure où effectivement le mouvement érigé en critère de civilisation qu'est l'immigration massive nous bouleverse. Je crois que justement c'est le fait de conserver ce qui peut encore l'être qui est révolutionnaire aujourd'hui, qui est et qui est d'urgence et d'actualité. Et je crois que c'est le progressisme qui est obsolète, parce que c'est l'idée de mouvement permanent, de déconstruire et de détruire toutes les limites de la condition humaine. C'est un mouvement qui aujourd'hui a 50 ans et qui n'est plus en phase, je crois, avec les aspirations profondes de l'humanité occidentale.
Vous qui avez des enfants, Comment gérez-vous, ou allez-vous gérer, parce que je crois que vos enfants sont encore très jeunes, les dégâts que cause ce que vous appelez la McDonaldisation de l'éducation nationale, c'est-à-dire cette fâcheuse tendance qu'a l'éducation nationale à brader les examens, à faire passer absolument au niveau supérieur les enfants pour ne pas les heurter dans leur sensibilité. Comment est-ce que vous allez maintenir le niveau dans votre propre famille ?
Comme j'ai la chance de ne pas me proclamer de gauche, j'ai le droit de mettre mes enfants dans le privé.
Premier point.
Parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'éducation nationale est une catastrophe absolue. Effectivement, et c'est triste d'ailleurs d'en arriver là. Je pense que ça devient d'autant plus important aujourd'hui de compenser l'incapacité de l'éducation nationale par l'instruction en famille, ce qui se passe en famille va devenir de plus en plus important en fait pour faire la différence.
Mais c'est pas évident pour tout le monde de
évidemment
de
c'est
de
pas évident
pour
tout le monde. C'est pour ça que ça va être de plus en plus inégalitaire malheureusement parce que à mesure que l'éducation nationale périclite, eh bien ce qui fera la différence c'est ce qui se passera dans les foyers et dans les familles. Et d'ailleurs, il y aura probablement un avantage aux familles où il y aura une mère au foyer qui pourra s'occuper des enfants et
donner moyens
une éducation. Et effectivement, c'est un grave problème. Et je crois qu'il faut... la question de l'école est absolument fondamentale. Et je trouve qu'elle a été délaissée, notamment pendant la dernière présidentielle. Ça n'a quasiment pas été un sujet. Alors que c'est là que se joue une bonne partie de notre avenir. Et face aux immenses défis qui s'annoncent, l'école ne peut pas tout, bien sûr, mais c'est un outil qu'il nous faut rénover en profondeur.
Donc toutes les attaques contre certains établissements, des écoles hors contrat ou certaines écoles privées en fait, qui résistent un peu, pensez qu'elles peuvent encore tenir, justement, avec toutes ces familles qui diront mais je veux surtout pas que mon enfant
mais moi, je pense que... Moi, je suis absolument favorable au hors contrat, au privé, à la libéralisation même de l'éducation nationale. Parce que je suis pour la liberté des familles, mais je pense que on va arriver à un tel point de rupture que dans 10 ans ou 20 ans, il n'y aura que deux choix, c'est ou tout libéraliser ou interdire les écoles hors contrat et le privé, parce qu'il y aura une telle dissociation des niveaux et des modèles qu'il n'y aura pas d'autre choix. Et donc c'est assez inquiétant en fait ce qui se profile.
Vous regrettez aussi dans votre livre qu'on ne sache plus s'ennuyer. Est-ce que vous, déjà personnellement, vous arrivez encore à vous ennuyer malgré votre métier où vous pouvez être parfois pris un peu de tous les côtés et à échelle encore de vos enfants, est-ce que vous arrivez à faire en sorte que vos enfants s'ennuient parfois?
Oui, ils sont encore petits. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas s'ennuyer quand on a des enfants. Oui, je dis que c'est vrai qu'on est stimulé en permanence. Alors moi, j'en suis... Enfin, j'ai un caractère un peu, je pense, hyperactif, qui fait que...
C'est dur.
qui fait que j'ai du mal à rester, comme le disait Pascal, seul dans une chambre, à réfléchir. J'ai besoin toujours d'actualité, de réfléchir, et parfois c'est trop même. Je me rends compte que j'ai du mal à me poser et que parfois d'ailleurs ce travail intellectuel me pèse ce travail intellectuel c'est un grand mot mais justement je trouve d'ailleurs dans la compagnie de mes enfants une forme de décentrement extrêmement libérateur, c'est-à-dire que en fait ce qui peut paraître comme une aliénation, c'est-à-dire ce fait de s'occuper de ses enfants et de jouer avec eux ou de passer du temps avec eux, pour moi, est un véritable décentrement salutaire par rapport justement à tout le reste. Ça permet de rééquilibrer les choses.
Vous brandissez la lecture comme une défense contre l'air du temps. À part votre livre, du coup, quel livre devrait absolument lire un de nos abonnés chez VA+, un grand ouvrage à conseiller pour commencer peut-être ou...
Alors c'est un ouvrage un peu exigeant, mais moi je pense qu'il est fondateur. J'en parle dans l'introduction de mon livre. C'est l'ouvrage d'Alan Bloom, le conservateur américain Alan Bloom, L'âme désarmée, qui est en fait il analyse la mentalité des campus américains dans les années 60-70. Enfin, t'es au moment de mai 68, quoi, un petit peu après. Et c'est absolument remarquable parce qu'en fait, il y a déjà tout, en fait. On se rend compte que le wokisme était déjà là. Cette mentalité, en fait, de relativisme de la culture, c'est-à-dire l'idée que tout se vaut, qu'il n'y a pas de vérité universelle, que en fait la déconstruction de toutes les données fondamentales, les piliers fondateurs de la civilisation, la différence des sexes, l'autorité, la famille, tout ça était déjà là, et Alan Bloom le décrypte merveilleusement. Franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup appris, beaucoup marqué, et je le recommande à la jeunesse. Voilà.
Et vous, quel est votre livre préféré ?
Ah, mon livre préféré de tous les livres.
Et ça fait beaucoup de livres.
J'hésite entre Les Trois Mousquetaires de Dumas et Les Possédés de Dostoïevski, qui sont deux immenses romans, très, très, très différents d'ailleurs.
Oui.
Presque opposés, on pourrait dire, parce que d'un côté, Dostoïevski, c'est la plongée dans les affres de l'âme humaine et dans les dilemmes philosophiques constitutifs de la modernité. Et Dumas, c'est la légèreté, la cavalcade, le panache, Gascon, l'aventure, la légèreté à la française. Enfin, j'aime bien la profondeur de l'âme russe et la légèreté et le panache à la française, en fait.
Et vous faites partie, comme beaucoup de nos abonnés de cette génération, de cette jeunesse surtout, qui subit un peu de plein fouet les conséquences de mai 68. Et je pense qu'on a tous autour de nous, déjà, potentiellement même dans nos familles, des boomers, comme on les appelle. Donc, que faire face à un boomer ? Que dire ? Comment réagir ? Peut-être c'est une vidéo à absolument lui faire regarder, ou un livre à absolument lire pour que ça y est, ça percute.
Il y a boomer et boomer, je ne veux pas incriminer toute une génération, parce que dans ce livre, d'ailleurs, je rends hommage à des gentils boomers. D'ailleurs, Alain Finkielkraut, à chaque fois que je l'appelle, il me dit « Salut, c'est boomer ». Il me laisse des messages dans mon répondeur en disant « Salut, c'est boomer », parce qu'il dit « Je l'appelle boomer ». Ça le fait rire, donc on rigole là-dessus. Donc, il y a des gentils boomers, il ne faut pas... mais c'est vrai que je pense que c'est une génération qui n'a pas conscience des privilèges qu'elle a vécu, en fait, et de l'extraordinaire parenthèse historique, en fait. Comme le disait Cyrine Ellis, c'est la génération sans pareil, puisque c'est la génération qui n'a pas connu le chômage, qui a connu une France encore homogène culturellement, qui a connu la paix, qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais versé son sang, qui a pu acheter ses appartements à des loyers modérés, à des prix modérés,
partir
en vacances, faire des croisières, et qui a légué, et qui en même temps, faut pas incriminer une génération encore une fois mais qui a en tout cas déconstruit, qui a un peu tiré l'échelle après elle, moi, j'aimerais simplement qu'ils reconnaissent, qu'ils ont vécu un monde, une parenthèse dorée, et qu'ils l'admettent, et qu'ils ne disent, nous fassent
faut,
pas.
Faut leur montrer ce qu'on vit, nous, pour qu'ils comprennent.
Non, mais il faut pas non plus geindre et être victimaire et dire, nous, oh, pauvres milléniaux, on a quand même beaucoup souffert, etc. Je pense qu'on a moins souffert que des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, mais eux n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Donc, effectivement, si on se compare juste à la génération juste avant nous, effectivement, nous vivons moins bien. Et nous vivrons moins bien, et nous vivons le retour du tragique. Nous allons vivre les deux plus grands défis du XXIe siècle, que sont l'immigration massive et le changement climatique, qui sont, à mon avis, deux défis d'égale importance. Et je pense qu'ils n'ont pas vécu ces défis-là, et donc qu'ils doivent, en tout cas, le reconnaître d'abord, et ensuite avoir une forme de modestie par rapport à leur génération.
Par rapport aux assauts de la dictature des ressentis, est-ce que vous avez déjà douté de vos positions ? Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, ça doit être moi la folle, parce qu'apparemment, ça ne convainc personne ce que je dis. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, est-ce que je suis dans le bon chemin ? Est-ce que c'est pas moi qui fais fausse route depuis le début ?
Oui, bien sûr. Ça m'arrive même encore souvent, en fait, de douter. Je crois que c'est constitutif... À la pensée, au cheminement de la pensée, il faut douter. J'espère qu'un jour je n'arriverai pas au point où je ne doute plus. Et c'est vrai que parfois je me demande si j'ai pas exagéré, si je caricature pas mes adversaires, si j'ai pas tort. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'essaie de creuser les sujets. Sur la question du féminisme, je crois, à force d'avoir réfléchi, que j'ai raison, je crois que c'est important quand même de garder ce doute à l'esprit, parce que c'est ce qui justement, enfin moi, encore une fois, c'est pour ça que je ne suis pas de gauche, c'est aussi parce que je doute, et que je n'ai pas la certitude absolue d'avoir raison, et je ne me confie pas dans mon dans ma supériorité morale par rapport à mes adversaires politiques ou intellectuels.
Est-ce que ça a été, dernière question, après je vous lâche, est-ce que ça a été dur dans votre métier de penser ce que vous pensiez? Est-ce que parfois vous vous dites, mais j'arrête tout, j'ai besoin de calme, j'en ai marre d'être dans le combat justement, j'ai envie d'apprendre du temps, en plus maintenant vous avez une famille, est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher tout ça? Parce que quand vous étiez, entre guillemets, plus jeune, on a la cause, on y va, let's go, et vous avez fait partie des premières quand même figures de cette jeunesse qui est VA+, en fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que tout le monde vous connaît. Est-ce que voilà, il n'y a pas eu un moment où, même encore maintenant, vous dites, bon, allez, c'est bon, on arrête, c'est pesant, j'en ai marre.
Voilà, c'est une bonne question. Effectivement, oui. Enfin, ça a été dur à certains moments, quand j'ai fait ma première télé en 2014 ou 2016, en public à Paris 8, il y a des féministes qui m'ont entartée. Alors même que je ne faisais qu'énoncer des opinions, sans aucune injure. Et ça m'avait beaucoup marqué, cet épisode, parce que, c'est là où je me suis rendu compte de la dictature des ressentis. C'est-à-dire vraiment le côté, on énonce une opinion dans le débat public, et on se fait insulter et même physiquement agresser. Et ça a été assez dur à vivre pendant des années. J'ai eu peur, par exemple, d'aller dans des facs parler, parce que je craignais que dans la salle, quelqu'un m'agresse, etc. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai pris la distance là-dessus. Effectivement, il y a des moments où je me dis, voilà, quoi ça sert de s'exposer comme ça. Je pense que je suis aussi un peu moins militante qu'avant, peut-être plus calme, peut-être. Effectivement, c'est un décentrement dû à la vie de famille. Disons que je vois les choses avec un peu plus de distance et moins d'implication personnelle, d'engagement. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et de toute façon, quand on est jeune, on a une espèce de... On a une soif d'engagement dans la cause, qu'on défend. Et je crois que c'est bien. Enfin, il y a un temps pour tout, en fait. C'est bien d'avoir cette espèce de flamme à 20 ans. On ne peut pas la garder toute sa vie. Elle finit par s'épuiser. Mais il faut garder, d'ailleurs, le souvenir de cette flamme-là. Je crois que c'est important de ne pas devenir cynique, désillusionné de tout. Et moi, j'essaie souvent de me rappeler... la personne que j'étais à 20 ans et peut-être l'enthousiasme et le feu qui m'animait à l'époque, parce que parfois aussi ce feu s'éteint et ça peut être assez triste.
Et justement, ce que vous conseillez dans votre livre, de continuer de s'émerveiller,
oui.
Peut-être que ça aide.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le militantisme. C'est important d'avoir des idées, de les défendre, d'être dans le combat idéologique, mais c'est aussi important de s'émerveiller, de trouver des choses qui nous rassemblent par-delà nos différents idéologiques. Et je crois que c'est ça qui est très grave aujourd'hui, et je le déplore dans mon livre, c'est que... Et je crois que c'est ça qui est relativement nouveau, c'est que le sectarisme idéologique a toujours existé, mais il y avait souvent une manière de se réconcilier, notamment entre droite et gauche, par exemple dans la littérature. C'est assez frappant qu'on voyait des gens comme Drieux La Rochelle et Aragon, qui sont dans des options politiques irréconciliables, mais qui partagent la même admiration et les mêmes goûts littéraires. La littérature permettait de... Je pense qu'il y a deux choses qui permettaient de dépasser les différences, c'était la patrie et la littérature. On mourait ensemble dans les tranchées, où on lisait les mêmes livres. Aujourd'hui, on ne meurt plus ensemble dans les tranchées et on ne lit plus de livres. Et je crois que c'est ça qui est dramatique.
On n'a pas forcément envie d'avoir à mourir dans les tranchées pour ce...
Oui, pas non. Il n'y a pas que ça. Pas, c'est dramatique de ne plus mourir dans les tranchées, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a plus on n'a plus de cause commune, en fait, pour lesquelles mourir ensemble, en réalité, plus d'admiration commune. Et je crois que c'est important de retrouver cette admiration.
Parfait. Ben, on est tout bon. Merci beaucoup, Eugénie, d'être venue.
Merci à vous.